France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous. Aujourd'hui, dernier entretien avec Maria Callas, que Micheline Banzet avait eu la chance de rencontrer en janvier 1965. On ne découvre pas un mythe, mais une femme, artiste, musicienne, qui s'exprime avec beaucoup de franchise sur la critique, la gloire, le destin. Elle évoque aussi la difficulté d'être au service de l'art, son fatalisme, et conclut par un bel hommage au public qu'elle remercie de l'avoir comprise.
Norma Callas, deux noms désormais inséparables, une figure entrée dans la légende, mais aussi une jeune femme à laquelle nous rendrons hommage aujourd'hui en la retrouvant d'abord par le disque, justement dans l'enregistrement de Norma.
Fins demà!
C'était Maria Callas ou la Norma de Bellini. Cette extraordinaire fusion de l'héroïne antique et de son interprète nous entraîne dans un monde un peu irréel, plus tout à fait sur Terre. Et tous ceux qui ont vu sur scène Callas Norma, ou cette Norma Callas, on ne sait plus très bien, ils le savent. Callas, celle que je ne peux plus appeler que Madame Callas, avec le ton du plus infini respect, vous la rencontrerez tout à l'heure quand vous serez vous aussi grâce à l'enregistrement qu'elle a bien voulu m'accorder auprès d'elle. Mais avant, j'ai voulu encore que vous l'admiriez dans certains rôles qui vous sont peut-être moins connus. Par exemple, Maria Callas, la virtuose, dans L'Acmé de Léo Delibes.
Oh!
Connaissiez-vous bien cette virtuose étincelante qui se jouait des acrobaties que Léo Delibes impose à sa lacmée, mais sans jamais sacrifier la saveur musicale d'une courbe mélodique? C'est encore elle que vous allez retrouver, et qui sait dans notre langue incarner notre plus célèbre héroïne de l'opéra, Marguerite.
Quand il sentit
Maria Callas, nous quitterons la France un instant pour retrouver une langue sans doute mieux faite pour les beautés d'une voix et le style intensément dramatique de Giordano. L'œuvre, c'est l'opéra André Chénier.
Thank you.
C'était un fragment de l'opéra André Chénier de Giordano. Un dernier masque sur le visage de Maria Callas avant de la trouver elle-même, c'est le masque de Gianni Schicchi. Vous avez dit à un journaliste, ou du moins il l'a écrit, que votre vie commençait réellement à 40 ans.
Non, c'est stupide. La vie ne commence pas à 40 ans, c'est stupide.
Donc vous ne l'aviez pas dit.
Mais non. Vous savez, les journalistes disent n'importe quoi. Comme ils ont dit que j'ai acheté, on m'a donné une maison à, je ne sais pas, je crois que c'est Albéric Magnard. Évidemment, je reçois maintenant toute ma correspondance là-bas, mais j'ai pas. Cette maison, c'était pas donné à moi, j'ai pas acheté, et évidemment, je peux rien faire contre le journalisme, il écrit n'importe quoi, il dit que j'ai dit n'importe quoi, mais quoi faire, qu'est-ce que vous voulez? Moi, mais j'en sais plus rien, c'est tout ça.
Est-ce que vous lisez quand même les journaux et les critiques, et est-ce que vous en êtes parfois un peu affecté, ou est-ce que ça peut arriver à être tout à fait indifférent?
C'est un peu difficile de dire, parce que vous savez, nous artistes, nous devons nous peser, comme j'ai dit, je répète. Je vous demande pardon, mon français n'est pas parfait. Surtout quand je m'explique, je cherche de m'expliquer. C'est difficile, je ne suis pas très brave à ça. Mais enfin, comprenez-moi, cherchez au moins de me comprendre avec mon mauvais français. Je dis qu'il faut que nous nous pesions très bien chaque jour. Si on n'est pas bête, évidemment. Quand on a beaucoup de cervelle, comme moi que j'en ai trop, alors je pèse trop les choses. Et au lieu de voir les jolies choses que je fais, je vois toujours les mauvaises choses. Ça, c'était aussi des conseils des grands maîtres d'une fois. Ne pensez pas aux choses jolies, aux passages jolis que vous faites. Ça, c'est là, par force, par nature. Mais pensez aux défauts. Les défauts, il faut corriger. Et alors, ça peut aussi devenir un cercle vicieux. Parce qu'au lieu de penser ce que je suis brave et tout ça, on pense seulement aux défauts.
Et on est paralysé.
Et alors on devient malade, on est paralysé, on ruine les jolies choses pour les mauvaises, ça évidemment. Donc de temps en temps, il faut écouter des
les
critiques,
bonnes aussi.
Les bonnes et aussi les mauvaises. Évidemment, des fois, on est troublé par la, disons, la mauvaise foi. Parce que évidemment, il y a des grands critiques, mais vous dites critique, qu'est-ce que ça veut dire critiquer? C'est très difficile.
Je l'ai moins. Plaint, vous savez, c'est un terrible métier. Il faut
on
les
peut pas. Et un homme ou une femme, sérieusement, de bonne foi, n'accepterait jamais faire la critique. Parce qu'on ne peut pas critiquer un autre. Dans une soirée, surtout. Parce que dans une soirée, un artiste a travaillé pendant des années et des années. Pas seul, avec beaucoup des autres collègues, avec tout le monde ensemble. Ils ont dédié une vie. Dans une soirée, quelqu'un, peut-être il a mal à la tête, peut-être il n'aime pas cet artiste, peut-être parce qu'il a eu des soucis chez lui, peut-être je ne sais pas quoi.
Ou mal dîné avant.
Ou mal dîné avant. Et alors il dit, cette bête de femme ou cette bête d'homme, il gagne tout cet argent, il a de l'argent maintenant, et comme ça en ouvrant la bouche ou en faisant un geste. Alors, évidemment, on a les conséquences de ça. Le monde lit ça. Je dis, ce n'est pas en général, il y a des grandes critiques. Très peu, d'ailleurs.
Oui, il y en a très peu dans le monde, je crois aussi.
Très peu. Parce qu'ils sont fait l'oreille sur des traditions. Qu'est-ce que ça veut dire, tradition? Il y a plutôt beaucoup de mauvaises traditions que de bonnes traditions.
Et pour vous, est-ce qu'il y a une place pour une simple vie de jeune femme dans une carrière comme la vôtre?
Mais vous...
Ou est-ce qu'il faut vraiment faire une croix dessus?
Non. Je dois vous dire que c'est très difficile. D'abord, notre vie commence par être une grande discipline. Il faut à peu près qu'on se lève à certaines horaires. Évidemment, il faut qu'on se repose beaucoup. Surtout, pas seulement pour la voix, pour les nerfs. Parce qu'on travaille beaucoup avec les nerfs. Parce que le monde nous critique, mais malheureusement, la plus grande et méchante et sévère critique sont nous-mêmes. Et il y a des artistes qui se croient grands et des artistes comme moi qui se croient pas du tout grands. Au contraire, que c'était le destin qui les a portés là. Et alors, je me fâche avec le destin, je dis, je suis ici, alors tu m'as porté ici, pourquoi alors je ne peux pas faire tout ce que je veux? Voilà, tout ça veut dire pessimisme. Évidemment, quand on me dit que je ne suis pas capable, alors je me fâche. Voilà, le côté amour propre. Mm-hmm. L'amour propre existe, c'est très très accentué dans mon caractère. Il ne faut jamais me toucher sur l'amour propre. Ça, c'est un côté très... Je suis très vulnérable sur ça.
Oui.
Voilà que je deviens méchante des fois. Et je crois que tous les gens, disons, comment est-ce qu'on dit, tout un morceau, que, comme je me considère moi, que je, malgré qu'on m'appelle assez folle, je ne suis pas du tout folle. Au contraire, je vois les choses très, trop droit et trop clair. Et alors, pour la discipline, on ne peut pas avoir une vie simple. D'abord, il y a une chose. Tout le monde se croit, en te voyant, obligé à te faire des compliments. Ça gêne. On n'aime pas être rappelé de notre métier pendant la journée. J'aime pas être traité comme une artiste, parce que j'aime pas. J'aime être traité comme une dame de mon âge, une femme, c'est-à-dire la courtoisie. La courtoisie existe beaucoup aujourd'hui, mais pas tellement.
Elle n'existe pas.
Malheureusement. Et alors ça, voilà que je me fâche et je deviens méchante. Mais pas parce que je suis la Callas. Parce que je suis Madame Callas, tout simplement.
Oui, vous trouvez qu'on peut être poli, aimable et courtois avec une femme.
Autre chose, les journalistes ne te laissent pas faire. C'est-à-dire, ils pénètrent, ils te font dire des choses que tu n'as pas dit, ils te font faire des choses, ils te prennent des photos où tu ne veux pas, alors tu te fâches, alors ils te disent, elle est méchante, voilà, elle a eu une crise de colère et tout ça. Et alors, le monde te voit différemment. Tout simplement, ce que je veux dire est qu'on n'a pas la possibilité de faire ce qu'on veut quand on veut. Aller par la rue, par exemple, et voir un petit... comment est-ce qu'on dit ice cream.
Pour prendre une glace, tout simplement.
Une glace. Et je vois là qu'on vend une glace. Bon, je veux acheter une glace et me la manger en marchant par les rues. Évidemment, c'est une chose que tout le monde peut l'avoir. Surtout moi, parce que j'ai une âme assez jeune et disons, bohémienne. Eh bien, ça, vous vous rendez compte, si quelqu'un me voit manger la glace, on dit, ben, elle est folle, elle fait ça pour être excentrique, je ne sais pas quoi.
S'il y a un photographe là, alors c'est une catastrophe.
Et même le monde, je ne sais pas comment il va le prendre, parce que le monde ne peut pas comprendre que laissons la carrière là, sur la scène ou dans les studios d'enregistrement. Après ça, ça y est, c'est fini.
Bien sûr. Mais est-ce que vous arrivez justement quand même à pouvoir relativement préserver une partie de votre existence, vous cacher quelque part, enfin pouvoir être pour vous-même uniquement quelques fois dans une année?
Et oui, je reste beaucoup chez moi. Ici en France, on te laisse beaucoup faire. Ça, c'est une chose que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai choisi pour le moment, enfin, c'est 5 mois, 6 mois le plus qu'on vit dans un pays parce que nous voyageons beaucoup.
Oui.
On te laisse faire. Les journaux écrits, évidemment, tant de bêtises. Mais quoi faire, ça? On ne peut pas même démentir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il ne veut pas parce qu'il se crée une physionomie d'un artiste ou d'une célébrité. Il ne peut pas le toucher parce que puis après, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'ils ont dit des bêtises. Le monde te laisse faire ici. Il ne t'écrase pas, il ne t'embête pas. Puis vous avez une courtoisie toute spéciale d'aimer, de respecter les artistes, mais pas quand vous les voyez, de commencer à faire trop de compliments. Le français te laisse faire. Il écrit des lettres très beaux, très beaux. Je confesse aussi que le français, ou il aime, ou il n'aime pas. Et quand il n'aime pas, c'est aussi pas joli. Je ne sais pas, votre langue, peut-être c'est parce que je ne la connais pas encore très bien. Il y a une finesse toute spéciale.
Alors vous êtes sensible quand même à tout ce que vous dites.
Oui, ce n'est pas pour vous faire des compliments.
C'est un encouragement pour vous plutôt.
Oui, et il ne te laisse pas, il te laisse faire, il te laisse vivre, il ne te vient pas devant la porte te regarder comme une bête rare et tout ça. Tandis que des autres pays, des fois, ils te font ça. Tu vas faire, par exemple, des concerts dans des villes. Et tu ne peux pas marcher dans les rues, quoi. Ils ne te laissent pas faire tes achats.
Ça,
et
c'est ça, terrible,
ça c'est mauvais parce que tu es obligé à être en prison, chez toi. Et on a besoin d'un peu de...
D'air pur
et de vivre librement, surtout pour nos nerfs. Enfin, voilà.
Estimez, quand vous regardez en arrière sur les années que vous avez vécues, que justement, à cause de ce facteur humain, à cause du fait que vous êtes quand même une grande vedette, est-ce que vous avez eu à utiliser des qualités humaines particulières que la majorité des femmes n'ont généralement pas employées?
Les femmes, en général, disons, elles sont très... Elles ont beaucoup de chance. Moi, je trouve que notre race a beaucoup de chance. Parce que les hommes nous aiment comme nous sommes. Et ils nous voient beaucoup mieux de ce que nous sommes. Nous, femmes, nous sommes un peu intrigantes. Et c'est pas joli. Nous avons la langue qui coupe beaucoup. Nous parlons avant de penser. Moi aussi, d'ailleurs, parce que je ne fais pas une exception. Nous n'avons pas beaucoup de choses à faire. On travaille, on va chez le coiffeur, on s'habille. Il y a des hommes qui nous gâtent, on nous donne tout. Pas tous les jours. Évidemment, je parle en général, disons, du niveau du monde que peut se permettre. Mais je trouve que les femmes ont une grande, grande, comment est-ce qu'on dit, force, qu'on n'utilise pas trop, la fémininité. Moi, j'ai travaillé toujours comme un homme, alors, hélas.
J'allais vous dire la féminité, oui. Est-ce que vous avez beaucoup de place pour la féminité dans votre vie?
Il ne fallait pas, mais je l'ai. Et heureusement aussi, parce que comme ça, je peux me permettre de faire des personnages... comme je l'ai fait. Je suis très sensible. Et ça, c'est le point vulnérable de moi. Mais nous, femmes, si nous savons être femmes, tout simplement, nous aurons le monde à nos pieds. Et nous voulons nous habiller comme des hommes, nous voulons commander comme des hommes, quand on peut commander comme des femmes et obtenir beaucoup plus.
Mais est-ce que notre rôle n'est pas beaucoup plus difficile que celui des hommes?
Évidemment.
Les hommes n'ont qu'à travailler.
Évidemment.
Tandis que vous dites, nous avons le travail, mais nous avons la chance, nous sommes aussi des femmes. Mais c'est une double vie que vous menez.
Moi, oui. Et c'est pour ça que je dis que si les femmes devaient travailler un tout petit peu comme les hommes, alors ils auront amélioré beaucoup. Et ils auront aussi beaucoup moins le temps. Ils feront des intrigues. Ils auront apprécié aussi la vie et aussi leurs hommes qui travaillent pour eux. Parce que ce n'est pas si facile de gagner la vie. Moi, j'ai commencé une petite fille avec rien. En Amérique, je me suis trouvée en Grèce après, avec la guerre, je souffrais. La faim, tout le monde l'a souffert, d'ailleurs, je n'étais pas une exception. Et avec rien, disons, que mon monde particulier, avec mon monde que le bon Dieu m'a donné, la façon de m'expliquer avec, parce que c'est ce monde que j'applique à travers le chant à donner au public, comme ça, ça m'a rendue fameuse. Avec rien que j'ai, je suis devenue ce que je suis devenue. Ce que vous dites que je suis devenue, évidemment, je me rends compte. Évidemment, ça effraie. Voilà pourquoi j'ai peur. Que vous avez dit, maintenant j'ai peur. Parce que, sûrement, vous m'avez donné une situation qui est splendide, unique au monde. Mais que c'est très, très haut et on est très, très seul. Parce que quand, à un moment, on tombe, vous savez, la chute est très, très, très grande.
Comprenez. Est-ce que vous aimeriez faire profiter des jeunes de votre expérience? Est-ce que vous avez quelquefois envie de pouvoir leur crier casse-cou, de pouvoir les aider?
Oui, je voudrais. Mais ils sont des choses, vous savez, qu'on ne peut pas parler avec. Si eux, ils pouvaient, même à entendre le disque, ils pouvaient comprendre et continuer de là. Parce que moi, j'ai eu des bases splendides de Madame d'Hidalgo. J'ai eu Maître Séraphine et des autres grands chefs. Mais j'ai travaillé sur ce qu'ils m'ont donné. Avec ce que j'ai senti, je l'ai appliqué partout dans mon travail et j'ai exaspéré ça. Évidemment, il faut aimer ce qu'on fait, pas aimer les notes qu'on fait. Il faut absorber et se donner dans ces choses-là qu'on fait. C'est-à-dire, il faut rechercher dans nous-mêmes, en respectant, en voulant servir le compositeur. Ça, on fait nous-mêmes, pas seulement les autres. Évidemment, la jeunesse ne veut pas, n'accepte pas des conseils ou à venir comme des petits élèves à apprendre. Et voilà.
Vous disiez que vous avez été menée par le destin. J'ai l'impression que vous le servez bien, votre destin.
Je suis très fataliste. Parce que dans ma vie, j'ai vu que le destin vient me trouver n'importe où je suis. Et le destin est là, implacable. Et des fois, j'ai peur. Parce qu'il peut me donner des grandes choses. Je ne sais pas, il peut me donner des grands coups. Et on a peur, évidemment. Surtout parce qu'on n'est pas jeune. Et alors, on a peur de... des grands et de petits coups, disons. Et la gloire même fait peur, parce qu'on comprend que ce n'est pas naturel, c'est lourd. Bon. Mais on ne peut pas dire que le destin t'arrive. Alors, moi, je me repose, je n'ai pas besoin d'étudier, je n'ai pas besoin de me coiffer, je n'ai pas besoin de me laver, je n'ai pas besoin de m'éduquer, tout ça. Non. Toi, tu dois continuer à faire ce que tu dois faire. Le destin, s'il y a le destin, te vient trouver. C'est à toi de dire, ben ça c'est le destin, je vais le prendre par les
cheveux. Vous donnez l'impression de n'avoir jamais rien économisé certainement de ce que vous pouviez faire vous
sûrement.
En faveur de votre destin.
Il ne faut pas avoir peur de dépenser. Il ne faut pas avoir peur d'être nous-mêmes. Les grands hommes n'existent plus, ou très peu. Pourquoi? Ils ont peur. Peur de perdre la position, peur de mourir de faim, peur d'être écrasé ou d'être combattu, peur de tout. On peut dire ça. Qui a peur ne peut pas arriver à des grandes hauteurs.
Est-ce que vous me laisserez alors vous remercier avant de vous quitter au nom de tous ceux qui vous écouteront de leur avoir donné non pas 3 heures avec eux, mais une leçon de courage aussi, qui est valable non pas pour ceux qui font du chant, mais pour toutes les femmes, et mieux encore, pour tous les hommes qui veulent essayer de faire quelque chose de leur vie. Et c'est de ça que je voulais vous remercier.
Moi, je vous remercie vraiment, mais ce que je voulais dire est que probablement tous ces discours, je ne sais pas ce que j'ai dit, parce que je ne veux pas même le réécouter, sinon je ne le laisse pas passer. Mais ce que je veux dire est que je suis très reconnaissante au destin de m'avoir portée à cette position, surtout d'avoir donné la possibilité de laisser partir cette morceau dans moi et de le donner aux autres. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité et ils souffrent parce qu'ils se sentent, enfin, pas compris et ils n'ont pas la possibilité de laisser aller tous ces sentiments, toutes ces choses-là. Moi, j'ai eu pas seulement la chance de pouvoir m'en aller avec ces sentiments, c'est-à-dire le donner aux autres, mais de devenir célèbre avec aussi. Évidemment, je comprends que servir l'art est très, très, très difficile. Et plus qu'on cherche à servir, plus qu'on comprend, c'est toujours plus difficile. Et on se sent très, très petit. Ça, c'est vrai. Puis surtout parce qu'on est humain. Avec un instrument humain, on peut faire ce qu'on peut. Plus que ça, on ne peut pas. On a des nerfs, puis après. Mais ce que je veux dire, que je veux, pour terminer ce discours, je vous remercie, vous surtout, de toute cette amabilité et aussi la patience que vous avez avec moi. Je veux remercier tout ce public qui a su être près de moi dans des moments difficiles, pas seulement dans la gloire. Ils m'ont écrit... Ils m'ont adoré, ils m'ont compris, généralement, ils m'ont aimé. Alors de ça aussi, je suis très reconnaissante. J'ai que de la reconnaissance pour le monde. C'est tout.
Et maintenant, nous quitterons Madame Callas en la remerciant du temps qu'elle a bien voulu nous accorder. Nous la quitterons avec un dernier masque, celui qu'elle porte justement dans le bal masqué de Verdi, qui termine nos 3 jours.
Les trésors de France Musique se referment sur ce dernier opus de la série « Trois jours avec Maria Callas », une émission de Micheline Banzet enregistrée en 1965. Tous les épisodes de cette série d'entretiens sont disponibles à la réécoute, de jour comme de nuit, sur francemusique.fr, sur la page des trésors de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.